Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de Nine Archery. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié en 1942, Le mythe de Sisyphe est un essai philosophique dans lequel Albert Camus formule, avec précision, sa pensée de absurde. Son point de départ est radical, il faut examiner si une existence privée de sens ultime mérite encore d'être vécue. Camus ne cherche ni une consolation religieuse, ni une théorie capable de rétablir un ordre caché dans le monde. Il analyse plutôt la confrontation entre le désir humain de clarté, de cohérence et de bonheur, et le silence du réel. Cette confrontation produit ce que Camus nomme absurde. Le livre suit les conséquences de ce constat : le suicide, les échappatoires métaphysiques, la liberté, la passion, la création et la révolte. La figure grecque de Sisyphe, vouée à pousser sans fin un rocher qui retombe, donne une forme concrète à cette réflexion. Plus qu'un traité systématique, cet essai propose une discipline de lucidité vivre sans nier la finitude ni inventer de justification transcendante. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, absurde, une relation conflictuelle entre la conscience et le monde. Pour Camus, absurde ne désigne pas simplement un monde chaotique ou une humeur de désespoir. Il naît de la rencontre entre deux réalités, la demande humaine de raison, de finalité et de compréhension, puis le caractère muet et indifférent du monde face à cette demande. Ni la personne seule, ni le monde seul ne sont donc absurdes. Le problème réside dans leur relation, dans ce divorce que la conscience découvre lorsqu'elle cesse de vivre par habitude. Les gestes quotidiens peuvent alors apparaître mécaniques, et les projets tournés vers demain perdent leur garantie de sens. Cette analyse évite une simplification nihiliste. Camus ne prétend pas démontrer que rien ne compte au sens pratique ou affectif. Il refuse plutôt de conclure que le réel fournit une signification définitive, universelle et accessible à la raison. La lucidité consiste à maintenir cette tension sans la dissoudre par une réponse commode. Cette position explique la portée durable de Essai, il traite moins d'un malheur individuel que d'une expérience possible de la conscience moderne. Le lecteur est invité à distinguer le besoin légitime de sens et la croyance non fondée selon laquelle le monde doit satisfaire ce besoin. Cette distinction structure toutes les conséquences éthiques développées ensuite par Camus. Deuxièmement, le refus du suicide physique et du suicide philosophique. Le livre commence par la question du suicide, que Camus présente comme le problème philosophique le plus urgent si la vie ne possède pas de justification ultime. Faut-il y renoncer ? Sa réponse est négative. Le suicide physique ne résout pas absurde, car il supprime un des deux termes de la confrontation, la conscience vivante, au lieu de affronter le conflit entre elle et le monde. Il constitue une fuite hors de la question plutôt qu'une réponse à celle-ci. Camus examine aussi une fuite plus intellectuelle, le suicide philosophique. Cette expression vise les doctrines qui reconnaissent initialement le manque de fondement ou les limites de la raison, mais qui restaurent ensuite une transcendance, une unité supérieure ou une espérance absolue. Il dialogue notamment avec des penseurs religieux et existentiels, sans réduire leur système à une seule formule. Son reproche central porte sur le sceau qui transforme une limite constatée en vérité métaphysique. Refuser ce sceau ne signifie pas affirmer avec certitude que toute transcendance est impossible. Cela signifie ne pas la traiter comme une solution démontrée au sentiment de absurde. La position camusienne réclame donc une cohérence exigeante, ne pas maquiller le réel, ne pas se détruire et soutenir la contradiction telle qu'elle est vécue. Cette rigueur donne à Essai une orientation anti-nihiliste mais également anti-consolatrice. Troisièmement, révolte, liberté et passion comme conséquence de la lucidité. Camus tire trois conséquences principales de la reconnaissance de absurde : la révolte, la liberté et la passion. La révolte ne correspond pas à un programme politique dans cet essai. Elle désigne le refus continuel de consentir intérieurement à une explication illusoire ou à une résignation qui abolirait la conscience. Vivre devient une opposition maintenue entre le besoin de sens et absence de réponse définitive. Cette révolte est active parce qu'elle protège la lucidité au lieu de la laisser se dissoudre dans la routine ou espérance abstraite. La liberté acquiert alors un sens particulier. Camus ne fonde pas une liberté métaphysique garantie par une nature humaine ou un destin. Il met en avant la liberté concrète de vivre sans se croire soumis à une finalité déjà écrite. La finitude, loin de justifier l'inertie, rend les expériences présentes plus décisives. Enfin, la passion signifie intensifier le rapport à la vie vécue, multiplier les expériences et les engagements sans les transformer en preuve d'un sens éternel. Ces trois conséquences ne constituent pas une recette de bonheur ni une permission de agir sans responsabilité. Elles décrivent une manière de rester disponible au réel, à sa beauté périssable comme à ses limites. Camus oppose ainsi une affirmation lucide de l'existence au désespoir passif autant qu'aux promesses de salut. Quatrièmement, Don Juan. Le comédien est le conquérant figure d'une vie sans appel, afin de montrer comment une conscience de l'absurde peut prendre forme dans une existence. Camus analyse plusieurs figures Don Juan, le comédien et le conquérant. il ne les présente pas comme des modèles moraux à imiter intégralement. Ils servent de expérience de pensée, car chacun privilégie la pluralité des vies et des actes plutôt que attendre d'une récompense éternelle. Don Juan incarne la multiplication des amours sans croire qu'une relation unique puisse révéler une vérité absolue. Le comédien traverse de nombreux rôles et condense ainsi plusieurs destinées dans le temps limité d'une carrière. Le conquérant représente action dans histoire, menée sans garantie que histoire possède un but final ou que victoire soit durable. Ces exemples précisent ce que Camus entend par quantité et intensité de l'expérience. Il ne recommande pas une accumulation superficielle de plaisir. Il souligne que, si aucune hiérarchie transcendante ne peut ordonner les existences, la question devient celle de la présence consciente à ce que l'on vit. La création artistique reçoit une place comparable créée permet de fixer des images du monde sans prétendre les convertir en vérité finale. Ces figures révèlent aussi une limite de essai, elles restent souvent stylisées et marquées par les références culturelles de leur époque. Leur intérêt tient surtout à la logique commune qui les relie, vivre beaucoup, lucidement, sans appel à un au-delà réparateur. En dernier lieu, Sisyphe heureux reprendre possession d'une tâche sans fin, Sisyphe apparaît à la fin du livre comme la figure synthétique de homme absurde. Condamné par les dieux à pousser éternellement un rocher vers un sommet avant de le voir retomber, il semble subir la forme la plus extrême de travail vain. Camus situe pourtant le moment décisif pendant la descente, lorsque Sisyphe redescend vers son rocher et prend conscience de toute son étendue de son destin. Cette conscience ne retire ni la pierre ni la peine, mais elle empêche que la punition soit entièrement définie par les dieux. En reconnaissant sa condition, sans espérer une délivrance, Sisyphe peut faire de son destin une affaire qui lui appartient. La formule finale selon laquelle il faut imaginer Sisyphe heureux ne soutient donc pas que toute souffrance est heureuse, ni que la répétition sociale ou professionnelle doit être acceptée sans critique. Elle exprime une thèse plus précise, aucune fatalité ne possède un pouvoir total sur une personne qui la regarde lucidement et refuse de lui attribuer une signification sacrée. Le rocher devient une image de la finitude, du travail répété et de l'échec des promesses définitives. Mais la lutte vers les sommets peut contenir sa propre valeur, parce qu'elle engage attention, effort et fidélité au monde présent. Cette conclusion donne au livre sa tonalité singulière grave, dépourvue de consolation surnaturelle mais non résignée. En conclusion, le mythe de Sisyphe convient au lecteur attiré par la philosophie de l'existence, par les questions de sens et par une lecture exigeante de Camus. Il intéressera particulièrement ceux qui souhaitent comprendre la notion de absurde au-delà de son emploi courant, ainsi que les lecteurs de L étranger qui veulent situer le roman dans un cadre intellectuel plus explicite. Il demande cependant de la lenteur, les discussions avec Kierkegaard, Jaspers, Chesthoff ou Husserl peuvent être ardues sans quelques repères philosophiques. Cette difficulté fait partie de son intérêt, car Camus ne livre pas un simple message rassurant. Il examine les conséquences de plusieurs réponses possibles au manque de sens. Le bénéfice intellectuel principal est une meilleure capacité à distinguer lucidité, nihilisme, désespoir et espérance métaphysique. Sur un plan pratique, le livre ne fournit pas de méthode de développement personnel, mais il propose une attitude revenir au présent. Reconnaître les limites de toute justification totale et ne pas confondre absence de garantie avec absence de valeur vécue, face à bien des ouvrages existentiels. Il se distingue par la netteté de sa question initiale et par son refus symétrique de deux issues, la destruction de soi et la consolation doctrinale. La figure finale de Sisyphe donne une force imagée à une argumentation abstraite, cette alliance entre rigueur philosophique. Prose dense et symboles mémorables expliquent pourquoi Essai demeure une porte-entrée majeure dans œuvres de Camus et dans les débats modernes sur la condition humaine. Si vous souhaitez soutenir Albert Camus, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.